Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un délit d'entrave dans les universités pour ne pas troubler le bon ordre de l'établissement. Cette mesure a été ajoutée en urgence cette semaine à la loi de programmation de la recherche. Il s'agit d'éviter les blocages d'étudiants. Tollé chez les enseignants-chercheurs, vous l'entendrez. Nous évoquerons ensuite la panthéonisation de l'écrivain Maurice Genevoix.
Sa vocation littéraire est née dans les tranchées de la Grande Guerre au Panthéon aujourd'hui. Il entre avec tous les poilus, ceux de 14, comme il les nommait dans ses écrits.
Comment gérer les flux de patients en service de réanimation pour libérer des places dans la crise contre le Covid-19? Les hôpitaux de Paris utilisent la technique de l'oxygénothérapie. Explication à suivre.
Et puis nous tenterons de comprendre le rôle de la Turquie dans le Haut-Karabakh. 24 heures après la signature d'un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, Ankara se frotte les mains en coulisses, vous le comprendrez.
Après cette édition, une question: pourquoi le général de Gaulle est-il devenu une référence omniprésente dans les discours politique? La réponse de Frédéric Seyss avec son billet politique à 8h16. Poursuivre la recherche de base au quotidien et l'enseignement auprès des élèves tout en stimulant les projets compétitifs et innovants. Voilà le précaire équilibre auquel tente d'accéder la future loi de programmation de la recherche. Elle arrive cette semaine au terme de son processus législatif et elle est déjà très contestée par la communauté éducative. Voilà en plus une disposition qui a été ajoutée en urgence cette semaine par la commission mixte, une disposition qui fait bondir plus encore les enseignants-chercheurs. Ils ajoutent un délit d'entrave passible de 3 ans de prison. Les sénateurs et les députés ajoutent cette mesure. À quoi correspond-il, Tara Schlegel?
Ce délit consiste dans le fait de pénétrer dans l'enceinte d'une université, je cite, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. C'est sans précédent, assure l'enseignante-chercheuse Christelle Rabier, spécialiste de l'histoire des sciences à l'EHESS.
Cette loi met en cause ce qu'on appelle la franchise universitaire qui avait été arrachée à l'Église en 1253 par Robert de Sorbonne en fondant la Sorbonne, c'est-à-dire en faisant échapper l'université au droit de police de la cité et de l'État. Désormais, ça s'est mis en cause.
Et si ce délit d'entrave était commis en réunion, les individus pourraient désormais écoper de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il faut rappeler que cette future loi intervient dans le contexte de l'assassinat de Samuel Paty et des propos très durs de Jean-Michel Blanquer sur l'islamo-gauchisme qui ferait des ravages à l'université. Sylvie Bauer préside la commission permanente du CNU, le Conseil national des universités, élue donc par ses pairs, enseignants-chercheurs. Elle aussi y voit une attaque de ses collègues et des étudiants.
Les blocages, les grèves dérangent beaucoup. C'est une façon de couper aussi tout ce qui relève du débat politique et polémique. Je continue de penser que l'université, ça doit être le lieu du dissensus, que cette opposition doit être argumentée. C'est le travail de scientifique est un vrai travail, c'est pas une question d'opinion. Et tout ça, ça ressemble un petit peu à quelque chose qui s'apparente à de la censure.
Quelques parlementaires de gauche assurent qu'ils vont en appeler au Conseil constitutionnel.
Tara Schlegel pour France Culture. Ce texte-là est encore en première lecture et pourrait avoir du plomb dans l'aile. L'allongement du congé paternité, promesse d'Emmanuel Macron. Mais certains sénateurs, les Républicains, ont déposé 2 amendements pour réduire ce congé ou en tout cas pour supprimer le caractère obligatoire des 7 premiers jours sur les 28 possibles que prévoit le texte. Ces sénateurs souhaitent également que seuls les titulaires de CDI ou de CDD de 6 mois minimum puissent bénéficier de ce congé paternité. Pas de travaux parlementaires ce mercredi 11 novembre. Commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale oblige. Et comme de tradition, Emmanuel Macron sera ce matin sous l'Arc de Triomphe parisien pour rendre hommage aux soldats inconnus dont l'inhumation a eu lieu il y a 100 ans très exactement. Puis viendra, en fin de journée, la panthéonisation de Maurice Genevoix, un écrivain aujourd'hui oublié par beaucoup. L'académicien est célébré pourtant pour son récit intitulé « Ceux de 14 ». Avec cette entrée au Panthéon, il devient, selon les mots du chef de l'État, le porte-étendard des combattants de la Grande Guerre, Pierre Neveu.
C'est un double hommage qui sera rendu en fin de journée par le chef de l'État. Tout d'abord, l'hommage à un homme, brillant normalien, envoyé au front à l'âge de 24 ans et qui sera grièvement blessé le 25 avril 1915 dans la tranchée des Éparges, dans la Meuse. Dans la boue, dans le froid, sous la mitraille, le jeune Maurice Genevoix consigne sur des carnets l'enfer des combats, les cadavres déchiquetés, la puanteur, la mort parmi des instants de vie. Il y a, écrit Genevoix, des quartiers de viande saignante amoncelés dans l'herbe qui borde la route. Par ses écrits rassemblés dans l'œuvre, ceux de 14, Maurice Genevoix devient la voix de la Grande Guerre, car il décrit la bravoure des hommes pendant ces 4 années de folie meurtrière, l'esprit de camaraderie de ses frères d'armes. Et ce sont eux que le chef de l'État Emmanuel Macron tient aussi à honorer tout à l'heure, d'où cette panthéonisation à titre collectif de ceux de 14. Près d'1,5 million de militaires français fauchés par les balles et les obus de l'assaillant, tués par les lames ennemies, asphyxiés par des gaz, sans oublier les 4 millions de soldats blessés ou mutilés à vie, ceux que l'on appelait alors les gueules cassées, des générations entières sacrifiées. Ceux de 14 entrent donc aujourd'hui dans la postérité grâce à l'œuvre de Maurice Genevoix, le témoin de la Grande Guerre, qui fut aussi et surtout l'écrivain de la nature, l'annonciateur de l'écologie moderne.
Voilà pour le portrait de l'écrivain qui est à retrouver également en une de notre site franceculture.fr, car il est bon pour certains d'entre nous de rappeler ce matin la vie, l'œuvre de ce grand mémorialiste de la Première Guerre mondiale. On l'avait, je le disais, un peu oublié depuis sa mort en 1980, mais selon l'historien Stéphane Audouard Rousseau, c'est le lot de beaucoup d'écrivains. Rares sont ceux à traverser les siècles, dit-il.
Je dirais que Genevoix, on l'a redécouvert. On a redécouvert d'abord la richesse de son écriture, très classique, mais parfaite dans son genre. On a redécouvert aussi le sens de son écriture. Je crois qu'on comprend mieux aujourd'hui que Genevoix était une sorte de grand maître du deuil. C'est le maître du deuil des camarades morts. C'est ça, Genevoix. Je crois maintenant que dans la masse d'ouvrages, je crois qu'il y a une sorte de décantation, hein, c'est fait. Aujourd'hui, on lit à nouveau Genevoix, mais pas énormément. En revanche, Junger, les orages d'acier de Junger, sont un des monuments de la littérature de la Grande Guerre, qui s'est installé progressivement au sommet, alors que ça n'était pas le cas hein, au moment de l'apparition au début des années 20. En littérature de guerre, de la Grande Guerre, comme dans d'autres domaines, eh bien, la décantation se fait et elle est cruelle. La plupart des écrivains de guerre ont basculé dans l'oubli.
Un des propos recueillis par Stéphane Robert pour France Culture. Nous reviendrons sur la panthéonisation de Maurice Genevoix après ce journal, aux côtés d'Aurélie Luneau, historienne, productrice de l'émission de Cause à Effet sur France Culture et puis co-auteur d'une biographie sur Maurice Genevoix. Ce sera à 8h30. Pour rappel, il n'y a plus d'anciens combattants français de la Première Guerre mondiale. Le dernier, Lazare Ponticelli, est mort le 12 mars 2008. À 8h08, nous en venons à la crise du Covid en France et le Premier ministre Jean Castex qui doit s'exprimer à ce propos demain soir. Une prise de parole qui sera surtout pédagogique, assure-t-on à Matignon, car il est encore trop tôt pour proposer un assouplissement du reconfinement. Il y a eu hier, selon Santé publique France, 472 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, autant d'entrées en réanimation. Pour éviter que les patients n'y restent trop longtemps dans les services de réanimation, l'AP-HP en Ile-de-France utilise l'oxygénothérapie, une technique qui permet d'administrer jusqu'à 70 litres d'air par minute à un patient, Cécilia Arbona.
C'est un des pionniers de l'oxygénothérapie à haut débit en France. Le professeur Jean-Damien Ricard est le chef du service réanimation à l'hôpital Louis-Mourier de Colombes dans les Hauts-de-Seine.
Contrairement à l'oxygénothérapie conventionnelle où on va délivrer au maximum 15 litres par minute d'oxygène, là on va pouvoir délivrer de 60 à 70 litres par minute d'oxygène. Et donc cette technique permet dans un certain nombre de cas de pouvoir éviter l'intubation des patients. Une libération plus rapide des lits. C'est vrai qu'on était sans doute minoritaire au début de la première vague à utiliser cette technique. Certains nous ont emboîté le pas par la suite.
Si des commandes ont été passées, ces appareils distributeurs d'oxygène sont en nombre limité. Le professeur Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
On est confronté à plusieurs problèmes. Un, c'est la disponibilité des équipements, d'unités d'optiflo. L'autre limite avec ces dispositifs est la consommation d'oxygène. C'est-à-dire que comme on a une consommation qui est très importante, il faut s'assurer que les débits de gaz pour l'établissement sont suffisamment élevés afin que la mise sous un ou deux patients sous Optiflow ne prive pas l'ensemble des autres patients d'oxygène. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est une cartographie.
Une cartographie pour lister les besoins et les capacités de chaque établissement de soins et définir aussi une stratégie pour former rapidement du personnel.
Parce qu'il ne suffit pas d'apporter l'oxygène aux patients, faut-il encore le surveiller?
Car on ne peut pas laisser un patient Covid tout seul avec cette machine.
Pour éviter la contamination au SARS-CoV-2, le masque, par ailleurs, est toujours de rigueur en dehors de chez soi. Ce matin, l'association UFC Que Choisir annonce les résultats de ses tests. Il est possible de laver les masques jetables. Ils conservent, selon l'association, de très bonnes capacités de filtration pendant 10 lavages maximum à 60 degrés. Et puis, sachez toujours qu'en cas de non-port du masque ou de sortie non expliquée pendant ce reconfinement, le risque est toujours le même, 135 euros d'amende au moins. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet un renforcement des contrôles de police pour faire, dit-il, respecter les règles.
Partons maintenant en Turquie, au lendemain d'un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
Oui Guillaume, parce que la Turquie fait aussi partie de cette partition dans ce qui se joue dans le Haut-Karabakh. Une trêve donc, effectivement, un cessez-le-feu après un mois et demi de combat. L'Azerbaïdjan a finalement gagné des terres face à l'Arménie, de quoi satisfaire grandement Ankara, car le pays d'Erdogan pose un peu plus de pions à Nandlower.
Même si, depuis l'annonce du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, la Russie se présente comme le principal, voire le seul artisan de cet accord, et s'est empressée de démentir l'envoi de soldats turcs pour le maintien de la paix, comme la Turquie l'aurait souhaité, cette dernière ne ressort pas moins renforcée du conflit. D'abord, elle est tout de même incluse, aux côtés de Moscou, dans le mécanisme qui va se mettre en place pour contrôler le cessez-le-feu. À l'issue d'un échange téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé la participation de son pays à un centre commun de maintien de la paix, qui sera implanté dans l'un des territoires récupérés par l'Azerbaïdjan. Ankara, qui renforce au passage ses liens avec Bakou, accroît donc sa présence et son influence dans le Caucase. Tayyip Erdogan, comme Vladimir Poutine, peut aussi se féliciter de ce cessez-le-feu qui marginalise les Occidentaux, alors même que la France et les États-Unis co-présidaient depuis 28 ans avec la Russie le groupe dit de Minsk, censé trouver une solution au conflit du Haut-Karabakh. Enfin, selon plusieurs observateurs, le principal gain pour Ankara se trouve dans la clause 9 de l'accord de cessez-le-feu qui engage l'Arménie à mettre en place un corridor pour permettre tous les déplacements de véhicules à travers son territoire, entre sa frontière avec l'Azerbaïdjan et l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhchivan, frontalière de la Turquie. Autrement dit, une autoroute directe devrait bientôt être créée entre la Turquie et Bakou, donc la mer Caspienne et au-delà vers tout le monde turcique. Et c'est effectivement un gain géostratégique majeur pour Ankara.
À Nandlower depuis Istanbul. Juste au sud maintenant, partons en Syrie, où le retour des réfugiés est officiellement une priorité du régime de Damas. Bachar el-Assad organise d'ailleurs aujourd'hui une conférence internationale sur cette question avec son allié russe. L'idée est d'afficher une normalisation de la situation en Syrie malgré 9 ans de guerre civile et 300 000 morts. Des représentants de l'ONU seront présents comme simples observateurs de cette conférence. Les chiffres, toutefois, les chiffres de réfugiés parlent déjà d'eux-mêmes, Aurélien Colli.
800 000 Syriens auraient déjà regagné leur pays, selon le régime et son allié russe, des chiffres très supérieurs aux données des organisations internationales ou non gouvernementales, qui avancent plutôt les 200 000 retours, et il faut distinguer, pas des retours d'Europe, où selon une enquête de l'Association syrienne pour la dignité citoyenne, 97% des réfugiés se disent bien établis, mais des retours dits volontaires de la Turquie, de la Jordanie et du Liban, 200 000 retours sur 5 millions de réfugiés accueillis par ces trois pays, parce que leurs conditions de vie se dégrade fortement sur fond de crise sanitaire et économique, parce qu'ils subissent aussi des pressions illégitimes des autorités, selon l'organisation Human Rights Watch. Pour autant, malgré cette réalité, malgré aussi l'agenda politique de Bachar al-Assad et de son protecteur russe, le grand retour n'est pas à l'ordre du jour, selon les dernières enquêtes menées dans la région, mais aussi en Occident. Si les trois quarts des exilés syriens veulent rentrer chez eux, la plupart considèrent toujours que les conditions ne sont pas remplies. Priorité pour eux, le démantèlement de l'appareil sécuritaire du régime, tant redouté, et le départ de Bachar al-Assad.
Des flux migratoires aussi en ce moment dans la Corne de l'Afrique. Le Soudan constate l'arrivée de milliers d'Éthiopiens à sa frontière. Et ce, à cause des combats qui ont éclaté en Éthiopie il y a une semaine maintenant. Du brouillard et des nuages bas, voici le temps qui nous attend ce mercredi sur une grande partie de la France métropolitaine. Le soleil ne devrait percer finalement que sur le sud-est avec 15 degrés ce matin à Nice. Il fait par ailleurs 12 degrés à Brest, 10 à Bordeaux, Paris et Lille, 8 degrés à Strasbourg et à Aurillac, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal pour ce journal. Il est 8h15 sur France Culture. Dans une demi-heure environ, nous retrouverons Hervé Gardel, Géraldine Mostasavoie et Arnaud Laporte pour la transition, le carnet de philosophie et savoir quoi pensent les artistes. En attendant, on va évoquer à la fois le personnage de Charles de Gaulle grâce à son biographe Julian Jackson qui sera en ligne avec nous, mais aussi un écrivain qui aimait beaucoup le général de Gaulle, Maurice Genevoix. Il entre au Panthéon aujourd'hui et je serai en compagnie de ma camarade Aurélie Luneau qui a réalisé une biographie de Maurice Genevoix avec Jacques Tassin aux éditions Flammarion et un billet politique. Bonjour Frédéric Seyz.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien justement, pourquoi le général de Gaulle est-il devenu une référence omniprésente dans les discours de nos responsables politiques ?
Dans quelques instants.